Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François réaffirme la nécessité de maintenir vive l'attention pour le respect de la vie humaine. Il a fait part de sa proximité spirituelle avec les participants à la marche pour la vie organisée ce dimanche à Paris. Le pape François, qui a reçu la présidence de la conférence des évêques de France à quelques jours de la visite de François Hollande au Vatican. Vous entendrez Monseigneur Pontier dans cette émission. Dans ce magazine, nous verrons également que le nombre des prêtres coupables d'abus sur mineurs et réduits à l'état laïque a sensiblement augmenté, résultat des consignes de tolérance zéro données par Benoît XVI. Un pédophile ne peut pas être prêtre, avait-il affirmé. En fin d'émission, ne manquez pas notre rubrique hebdomadaire « Livre pour Dieu » et bien sûr, le commentaire de l'Évangile. Le pape François a apporté son soutien à la marche pour la vie organisée ce dimanche à Paris. C'est le nonce apostolique Monseigneur Luigi Ventura qui l'indique dans un courrier aux organisateurs. Dans son discours au corps diplomatique lundi dernier, le Saint-Père avait dit l'horreur que lui inspire l'avortement. En juin dernier, à l'occasion d'une rencontre avec une délégation de parlementaires français, il avait incité les élus à ne pas hésiter à abroger les lois, si nécessaire. Le pape François doit, je vous le rappelle, rencontrer le président François Hollande vendredi prochain. Une pétition circule dans certains milieux catholiques français pour demander au souverain pontife de faire part au chef de l'État français du profond malaise et de l'inquiétude grandissante de nombreux catholiques de France face à la promotion par le gouvernement d'atteintes majeures aux droits fondamentaux de la personne humaine et face aux attaques dont ils affirment être l'objet quotidiennement. Virginie Mercier, porte-parole de la Marche pour la vie, un collectif d'associations, se réjouit de la bénédiction du pape.
C'est une grande joie d'avoir cette bénédiction à la veille de notre marche, à l'heure où nous sommes tous mobilisés pour faire de cette marche un grand et beau moment de contestation et par rapport à ce qui va se passer chez nous en France avec le projet de loi qui revient à l'Assemblée le 20 janvier. C'est vraiment une très grande joie d'avoir cette bénédiction et un grand encouragement.
Et alors, est-ce que vous vous définissez comme un mouvement catholique ?
Alors, bien sûr, enfin, nous sommes un mouvement de contestation politique, puisque nous inscrivons quand même dans un combat politique. Mais encore une fois, nous, on ne veut pas se cacher derrière notre petit doigt. Et nous sommes là aussi par conviction religieuse, par rapport à ce commandement, tu ne tueras pas, bien évidemment.
Oui. Comment vous vous sentez par rapport aux contradicteurs qui émergeront forcément demain et sur la scène médiatique au-delà ?
En tout état de cause, les contradicteurs, on en a depuis toujours, mais nous voyons quand même un réveil des consciences, l'opinion publique en général, avec un intérêt sur la question de l'avortement. Ce qui se passe en Espagne, pour nous, est quand même un encouragement aussi à nous dire qu'il est toujours possible d'inscrire dans un véritable progrès humain en allant limiter les conditions d'accès à l'avortement comme le fait l'Espagne. Et en tout état de cause, nous espérons que les parlementaires chez nous courageux vont venir dès lundi s'opposer aux amendements du projet de loi qui revient à l'Assemblée et qui est excessivement grave puisqu'il va venir étendre le délit d'entrave à l'IVG et bâillonner la liberté d'expression de toutes les associations qui œuvrent pour aider les femmes enceintes en difficulté.
Est-ce que la question du délit d'entrave à l'IVG, vous sentez que c'est un débat qui peut être transpartisan ou est-ce que c'est un débat droite-gauche ?
Moi, je pense que c'est un débat transpartisan parce que ça touche quand même profondément à la liberté d'expression, une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression, la liberté d'être contre ce droit à l'avortement. Avec ce projet de loi, c'est vraiment le bâillonnement de l'expression d'une opinion contraire à une sorte de politiquement correct. Donc je pense que ça peut véritablement toucher tout le monde.
Virginie Mercier, porte-parole de la Marche pour la vie, interrogée par Cyprien Viette. Je vous rappelle qu'en 2011, Benoît XVI avait lui aussi béni la Marche pour la vie. Réuni le 15 janvier, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France est intervenu au sujet du projet de modification sur l'IVG. Il déplore la transformation profonde de la législation que provoquera, s'il est voté, le remplacement des mots évoquant la situation de détresse de la femme par les mots « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ». Quelques jours auparavant, la Conférence des évêques de France avait publié un document très sévère sur les projets du gouvernement concernant la fin de vie. Le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier, ainsi que ses vice-présidents, ont été reçus par le pape François cette semaine. Les représentants de l'épiscopat français ont évoqué avec lui de nombreux sujets de société en France, comme le mariage pour tous, la laïcité, l'euthanasie, la famille ou encore la place de l'islam en France. Mgr Pontier, interrogé à Rome par Cyprien Viette.
Un échange avec lui de 3 quarts d'heure quand même, vous voyez, donc une durée que nous n'avions pas espérée et qui permet de partager avec lui de manière simple, sous la forme d'échange et de réflexion ensemble, on va dire, hein, beaucoup plus que de monologues successifs. On a abordé bien sûr des questions touchantes puisque c'était aussi des travaux qu'on faisait en novembre sur la famille, la pastorale familiale. La famille est bousculée en Occident en particulier. Elle est un lieu de souffrance et d'espérance aussi qui interpelle l'annonce de l'Évangile. Forcément, nous avons parlé de la visite que le président de la République va faire au Saint-Père vendredi prochain. Et donc on voit bien que la secrétaire d'État et le Saint-Père Père travaille cette visite ensemble et qu'il était déjà averti sur pas mal de choses. Ça a été l'occasion là pour moi et puis pour la présidence de rappeler les contacts derniers qu'on a eus avec le président, les débats de société bien sûr autour de la fin de vie, des questions qui nous marquent, des relations entre l'État et l'Église, la laïcité, la manière de vivre la laïcité en France, les débats entre la laïcité de l'État, la laïcisation de la société. On comprend, lui vient de notre continent, il n'est pas obligé de connaître les arcanes de la laïcité à la française, même s'il l'a dit lui-même. Je sais que la laïcité est vécue en France d'une manière originale, mais on lui a un peu dit des choses sur ce fonctionnement français, qui n'est pas un fonctionnement de séparation, comme on pourrait le croire, radical, mais qui est dans un contexte aujourd'hui complexe. Et je pense aussi qu'il y a eu exprimé une satisfaction que le président Hollande vienne faire cette visite de la part du Saint-Père, certes, mais de la nôtre aussi. C'est pour la communauté chrétienne une chose qui a de l'importance, quoi.
C'était Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France. Le Saint-Siège a confirmé les informations publiées vendredi soir par l'agence de presse AP. En l'espace de 2 ans, Benoît XVI a démis de leurs fonctions 384 prêtres pour abus sur des mineurs. Près de 300 en 2011 et une centaine en 2012. Ces prêtres ont été réduits à l'état laïque, à leur propre demande ou par la volonté du Saint-Siège. En 2008 et 2009, 171 prêtres avaient été renvoyés. En 2010, Benoît XVI avait durci la législation canonique en la matière pour lutter de manière plus efficace contre ce fléau. 2 ans plus tôt, à bord de l'avion qui le conduisait aux États-Unis, il avait déjà fait part de son intention d'exclure rigoureusement les pédophiles du ministère sacerdotal. La commission internationale d'enquête sur Medjugorje a terminé son travail vendredi 17 janvier. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège l'a confirmé samedi matin, répondant aux questions des journalistes. Jean-Baptiste Cocagne.
Cette commission créée en 2010 par Benoît XVI, sous les auspices de la Congrégation pour la doctrine de la foi, était présidée par le cardinal italien Camillo Ruini et composée d'une quinzaine d'experts, théologiens, médecins, psychologues, mariologues. Le résultat de son travail sera transmis à la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui doit l'évaluer et décider de la suite à donner à ce dossier. Lieu d'apparition présumé, situé à proximité de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, Medjugorje attire les foules depuis plus de 30 ans. Mais la crédibilité des apparitions de Notre-Dame est encore à l'étude. Plusieurs responsables de l'Église catholique ont lancé des appels à la prudence. D'autres, au contraire, s'y sont rendus en pèlerinage. L'Église locale est elle-même profondément divisée. On attend désormais une prise de position officielle et définitive de la part du Vatican. Jeudi, le pape François a reçu en audience l'archevêque de Sarajevo.
Au cours d'une audience aux dirigeants, techniciens et journalistes de la RAI, Radio-Télévision Italienne, le pape François a souhaité ce samedi matin que le service public soit toujours au service du bien commun, de la vérité et de la beauté. La télévision publique ne doit pas seulement informer, mais aussi former, a-t-il averti. La qualité éthique de la communication est en dernière analyse le fruit de conscience attentive et respectueuse des personnes. Le Saint-Père a mis en garde contre la désinformation, la diffamation et la calomnie qui font tant de mal. Il a par ailleurs remercié la RAI pour la place accordée à l'information religieuse grâce aussi à sa collaboration avec Radio Vatican et avec le Centre de télévision du Vatican. Ce dimanche après-midi, le Saint-Père visitera une paroisse romaine située à proximité de la gare Termini dans le centre-ville. Confiée aux Salésiens, la paroisse du Sacré-Cœur sera la 4e paroisse romaine visitée par le pape François. Avant de célébrer la messe, il rencontrera plusieurs groupes, dont une 60aine de SDF et une 100aine de réfugiés, nombreux dans le quartier et auxquels la paroisse tente de venir en aide. La visite du pape François coïncidera avec la 100e journée mondiale des migrants et des réfugiés, une journée pour laquelle il a publié un message intitulé vers un monde meilleur. Et à propos de ce dossier, j'ajoute que l'hôpital pédiatrique romain Bambino Gesù, qui appartient au Saint-Siège, dispose d'un dispensaire exclusivement destiné aux problèmes de santé des enfants immigrés réguliers ou clandestins. Le personnel médical est spécialisé en médecine transculturelle et ethnopsychologie. Depuis juillet 2012, ce dispensaire a accueilli 279 enfants de 30 pays. L'hôpital insiste sur l'importance de l'accueil et de l'intégration dans les services de santé. Avant-dernier volet de ce magazine, je vous laisse en compagnie de Catherine Aubin, qui nous propose, comme chaque semaine, son livre pour Dieu.
Cette semaine, le livre pour Dieu est le dernier livre de Jean-Claude Guibaud et il s'appelle « Je n'ai plus peur ». Dans ce dernier ouvrage, Jean-Claude Guibaud se livre, il revient sur lui-même en tant que journaliste, écrivain, il relit sa vie, essaie de comprendre la genèse de sa pensée, de recenser les moments fondateurs de son parcours et il essaye aussi de nous faire partager son espérance, pourquoi espérer et il nous dit pour commencer pourquoi il est passé aux aveux.
Je crois que c'est pour une raison toute simple. Je suis excédé, je suis lassé du cynisme ambiant. Nous sommes dans une société de plus en plus désenchantée, de plus en plus compétitive, de plus en plus agressive, où la compassion n'existe plus, où chacun, au fond, se croit obligé de faire le malin. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes un peu comme des assiégés et nous avons besoin de partager quelque chose qui nous reste, mais nous n'en avons plus beaucoup, c'est l'espérance. Et pour partager l'espérance, il faut arrêter de tricher, il faut dire qui on est. Il faut dire que si on espère, si on est dans la joie, c'est mon cas, ça n'est pas par une grâce particulière, ce n'est pas parce qu'on est plus fort ou plus malin que les autres, c'est parce qu'on a réussi à surmonter les blessures, les tragédies, les échecs. Autrement dit qu'on est comme les autres. Et dire « je n'ai plus peur », c'est le plus qui compte. Ça veut dire que j'ai eu peur, comme tout le monde, je suis comme vous, quoi. Passer aux aveux, dans mon esprit, c'est comme la volonté de partager des recettes de survie, de tendre la main à l'autre.
Justement, vous parlez de ce désenchantement qui règne aujourd'hui et vous dites « une nation tient debout ». Pour toute autre raison que des raisons commerciales ou budgétaires, et ce qui rend la cohésion possible, c'est la volonté de vivre ensemble. Expliquez-nous.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est la question qui se pose plus que jamais. Et pour vivre ensemble, il faut commencer par parler vrai, par ne pas tricher, pas jouer au petit malin, quoi, par casser cette espèce de réflexe comme ça protecteur. Il faut prendre le risque, lâcher prise. Et dire qui on est, et je pense que c'est la seule façon d'être capable de partager avec l'autre. C'est un livre qui dit que je ne suis rien d'autre qu'un homme comme les autres.
Et un homme qui traverse sa violence, vous partagez ce que vous avez vécu au Vietnam, et vous posez cette question, comment gérer la rivalité et la violence entre les êtres humains?
Oui, surtout je fais une chose qu'on avoue assez peu souvent dans mon métier, qui était celui de grand reporter, c'est que, en dépit de l'atrocité de la violence, de l'atrocité des souffrances, de la guerre, des tueries, des égorgements au milieu desquels j'ai vécu pendant 25 ans, on fait aussi un constat, c'est que les hommes cèdent au plaisir de la violence. Et ce que j'appelle le plaisir dégoûtant, cette espèce d'ivresse, si les guerres continuent envers et contre tout, c'est évidemment pour des raisons particulières, mais c'est aussi pour une raison principale, c'est que les hommes aiment faire la guerre. Et ce plaisir dégoûtant, il vous renvoie à une certitude, c'est que le mal habite aussi à l'intérieur de vous, que le mal les tapisse au fond de soi-même, et que si on veut l'éradiquer, si on veut le combattre, il faut commencer par s'interroger sur le mal dont on est capable soi-même. Autrement dit, il ne faut pas se contenter de dénoncer le mal chez l'autre, il faut aussi s'interroger sur soi-même. C'est pour ça que j'ai appelé ce chapitre « On est capable de tout ». Et que chaque homme est capable d'être meurtrier.
Et vous parlez aussi, Jean-Claude Guibaud, de l'effondrement. Vous en parlez dans tout un chapitre et vous terminez ce chapitre en disant « Tout effondrement contient une germination prometteuse, un métanoïa, voire un au-delà de soi ».
Oui, c'est la capacité de s'ouvrir à l'absolument neuf. Et aujourd'hui, les sociétés humaines vivent des mutations gigantesques pour conjurer la peur. Il faut être capable de s'ouvrir au monde nouveau qui vient. Il faut être capable de s'ouvrir à l'absolument nouveau. C'est une forme de courage et de joie. J'y suis d'autant plus sensible que, en tant que journaliste, j'ai vu des mondes se défaire, comme pour reprendre une belle expression d'Albert Camus, que ce soit au Vietnam ou ailleurs, le sentiment que tout d'un coup tout s'écroule et que vivre ensemble, cette espèce de manière de paix dans laquelle nous vivons, ça tient grâce à une mince pellicule qui peut craquer à tout moment. Donc je suis à la fois inquiet, mais empli d'espérance, parce que j'ai appris l'espérance auprès de gens qui, eux, avaient toutes les raisons de désespérer. Et qui m'ont donné cette leçon-là que j'ai jamais oubliée.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par sœur Catherine Bain. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile du 19 janvier, deuxième dimanche du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 1er, versets 29 à 34. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Ce deuxième dimanche du temps ordinaire ouvre une période qui sépare Noël du carême. Durant ce temps, nous méditerons sur plusieurs passages d'évangiles présentant les débuts de la mission de Jésus. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de Jean-Baptiste à propos de Jésus. Plusieurs affirmations essentielles de ses paroles méritent d'être relevées. Tout d'abord, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Jean-Baptiste reconnaît en Jésus le serviteur souffrant annoncé par le prophète Isaïe. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Le Messie attendu par Israël dépasse donc les attentes du peuple. Comme dira saint Paul, celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Jésus est véritablement cet agneau qui est sacrifié pour le salut de tous, tout comme en Égypte, au jour de Pâques, le sang de l'agneau était mis sur les deux montants et le linteau des portes, afin que la mort épargne les premiers-nés. Sur la croix, Jésus verse son sang, une fois pour toutes et pour tous les hommes. Mais celui qui peut sauver toute l'humanité ne peut pas être un simple homme. Ce doit être Dieu lui-même. C'est ce que signifie Jean-Baptiste lorsqu'il dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était ». Jean-Baptiste, par ces mots adressés à la foule, est en train de désigner Jésus comme un Messie divin. Dieu a envoyé son Fils parmi les hommes, il a pris chair de la Vierge Marie. Ce mystère-là nous dépasse complètement. Comment y croire? Tout simplement parce que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque nous prions, que nous sommes en adoration devant le Saint-Sacrement ou que nous recevons le corps du Christ durant l'Eucharistie, nous percevons avec l'intelligence du cœur que ce mystère est vrai. Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. Enfin, ce témoignage de Jean-Baptiste est un témoignage qui vient de la terre. Il doit donc aussi être confirmé par un témoignage venant d'en haut. C'est pourquoi l'Esprit Saint descend du ciel comme une colombe et demeure sur Jésus. Le Seigneur lui-même parle de ce double témoignage. Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean. Les œuvres que le Père m'a données à mener à bonne fin, ces œuvres mêmes que je fais me rendent témoignage que le Père m'envoie. Les paroles de Jean-Baptiste sont donc confirmées par le ciel. Jean-Baptiste continue en affirmant que c'est Jésus qui baptisera dans l'Esprit Saint. L'évangile de ce jour commence donc par affirmer le salut qui est offert à tous les hommes en Jésus. Cette annonce, c'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Nous pouvons nous mettre à son école afin de vivre pleinement le baptême que nous avons reçu. Dire aujourd'hui que nous sommes rachetés par le sang du Christ n'est pas un message que notre société accueille facilement. Elle préfère croire qu'elle se sauve elle-même par sa science, sa technique ou encore en raison d'une idéologie humaniste. L'homme pourtant ne devient pleinement libre que lorsqu'il sait que tout dépend de Dieu, car ce Dieu auquel nous croyons est un Dieu d'amour.
« Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bon dimanche à tous.